Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Et on est en plein dedans, on est en plein dans l'actu là, on est dans une finale très importante, à un moment où des destins se jouent là, entre Alcaraz et Djokovic, les GG cette semaine. Ce qui nous a marqué, c'est la capacité des sportifs de haut niveau, bah, dont vous avez fait partie, à être capable ou incapable d'élever le niveau de jeu quand ça compte vraiment. On l'a vu avec Djoko et Alcaraz en demi-finale, bah, c'est pas arrivé pour le PSG et l'OM cette semaine en Ligue des Champions, mais on parle de ça, de cette capacité quand l'oxygène manque, on va dire, quand la compétition s'élève à des altitudes plus compliquées. Voilà, par exemple, oui, Jérôme montre Christophe, c'est vrai, quand il met un kitesurf.
Dernier exemple,
en date,
c'est Christophe. Il arrive ce matin, il arrive pas. Patte dans l'eau,
il nous éclaire de son talent.
C'est un exploit.
C'est très, très fort.
On est proche de l'exploit.
Il passera quand même contre l'Antibes.
J'étais pas loin de l'humiliation, quand même. On était prêts à la
donner. Il passera quand même au contre l'antidopage à la sortie, monsieur, s'il vous plaît. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça alors qu'on regarde une finale historique. Être capable d'élever son niveau quand ça compte vraiment, quand on est sportif de haut niveau, on dit parfois l'interrupteur, être capable d'enclencher. Bon, ça, on parle de tennis là, justement, c'est vrai que c'est peut-être comme ça un sport individuel là où on est le plus dans ça. Comment tu l'as vivé toi dans ta carrière?
Comment je l'ai vécu?
Est-ce que tu en étais capable déjà? Dans les moments importants
oui
de mettre ce pourcentage
en
plus.
Oui, quand c'était des tournois à ma portée ou des joueuses à ma portée, autour de mon classement ou dans des tournois de ma catégorie de c'est-à-dire top 50. Mais en revanche, quand c'était dans des plus gros tournois et avec des adversaires qui étaient sur le papier bien meilleurs, Non, j'arrivais pas à élever mon niveau de jeu parce que je n'arrivais pas à me dire que je pouvais le faire.
J'arrivais pas à surperformer, en fait.
Oui, j'étais dans la démarche de est-ce que je suis capable de tenir le niveau? Donc je rentrais sur le court.
Battu déjà un peu.
Avec le souci de faire de mon mieux, mais pas de gagner. Donc en fait, c'était je veux juste faire un bon score. Donc en fait, ce plafond, je l'ai pas tenté. Je l'ai pas tenté parce que émotionnellement, psychologiquement,
j'étais pas armée
et c'est peut-être le regret de ne pas avoir réussi à travailler pour aller au-dessus, pour voir. Donc finalement, je m'inclinais avec le nom et le classement qu'il y avait en face, de facto. Donc oui, c'est pour ça que je dis oui et non. C'est-à-dire que quand c'était des joueuses à mon niveau, là, je lâchais rien. Là, je pouvais mourir sur le terrain parce que il y avait le classement qui me disait mais oui. C'est ton classement, Sarah, tu peux le faire.
Fred Le Canu, en judo, on a parlé en préparant ce vestiaire. Tu te reconnais un peu dans ce que dit Sarah? Toi, tu étais un émotif aussi sur les tatamis.
Oui. Bah, en fait, déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que on fait son sport avec sa personnalité.
Bien sûr.
Donc déjà,
on la traîne même.
Voilà. Donc quand t'es dans un sport d'affrontement, qu'il soit direct en judo ou indirect en tennis, bon, il faut avoir une espèce de mentalité de gagneur, un peu méchante, je pense, des fois. Moi, j'étais un gentil. Moi, j'avais envie d'embrasser les adversaires, de dire alors, comment va ta grand-mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est déjà un peu.
C'est vrai que c'est sympa.
Bah ouais, mais j'ai passé des très bons moments.
Non, mais ça va. Comment vont les grands-mères?
Mais c'est vrai. Mais moi, je pense que j'étais un gentil et ça a été la limite de ma performance. À un moment donné, il faut le petit truc en plus justement pour aller chercher la gagne, faut être agressif, faut être engagé, faut être un peu méchant et donc ça je l'avais pas. Et puis surtout, pour revenir sur le sujet, c'est quoi la performance? C'est le mental, le physique, la technique. C'est les trois points. Donc, quand t'as ces trois points qui sont tout en haut,
tu peux marcher sur
t'es dans le flow.
Beaucoup de monde.
Ce qui te donne ce déclic, Fred, on est d'accord là-dessus, c'est pour aller chercher l'excellence et le petit truc en plus, le dépassement, c'est ta tête. Hein,
c'est la tête, c'est d'être prêt aussi face à l'adversaire de toutes les manières possibles ou toutes les situations possibles.
Alors justement, des situations...
Quand on parle d'élever son niveau de jeu, on ne parle pas de physique et de technique, parce que du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Le seul vecteur que tu peux activer pour aller chercher l'exploit, pour aller chercher un petit plus, pour aller chercher l'au-delà ou la zone où tu n'as pas l'habitude d'aller, c'est ta tête.
Oui, mais la tête, elle est liée à tout, en fait. Tu peux pas le dissocier. Je te prends l'exemple technique. Moi, sur les gauchers, c'était très difficile. Moi, je pouvais battre tous les droitiers du monde. Je pouvais perdre sur un tocard gaucher de sortie tu vois, j'étais très mauvais. Parce que, en fait, j'avais pas compris les leviers. Je les ai compris bien trop tard. Une fois que ça a été mieux, dans ma tête, ça a été mieux. Parce que j'avais plus d'assurance. C'est comme ce que tu disais par rapport au classement. Une fois que tu sais, ce gap-là, il est passé. Bon, bah voilà, t'es plus
quand
à l'aise.
Quand tu fais sauter une barrière.
Exactement. C'est ça le haut niveau.
Tu ouvres une porte supplémentaire. Mais c'est ce qui différencie le bon joueur champion.
Mais non, mais c'est ça en fait. C'est hyper cruel. Je pense à. Moi, j'avais en tête en préparant ce vestiaire justement toutes les fois où Federer, Nadal arrive au bout d'un set. Il y a pas eu de break et d'un coup les mecs ils arrivent 7-5. Ils gagnent le tie break. Ils arrivent à mettre ce petit pourcentage en plus, mais qui doit être déprimant en fait quand t'es face à eux, quand t'es face à des champions.
C'est le privilège d'avoir l'occasion de te connaître en fait. Ça peut paraître
à moi ce que je fais directement. Merci.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que toi, je vais te raconter juste une anecdote. On est en Championnat d'Europe par équipe et moi, je suis ce jour-là, je suis dans le flow, je suis intouchable de moi. Tu vois, je suis très en forme, tout va bien, je fais un judo comme jamais, tout va bien. On prend les Russes et on prend un adversaire qui a été triple champion du monde qui s'appelle Mikhailin. Mikhailin, c'est Teddy Riner le banc en finale à Londres, je crois.
Ouais, okay.
Et ce jour-là, en fait, à l'époque, on pouvait faire match nul. Moi, je fais match nul, je perds pas. Mais je gagne pas. Et je gagne pas dans une journée où j'ai été dans la version optimale.
Tu marchais sur l'eau.
Je marchais sur l'eau. Bah finalement, ce combat-là, il m'a fait encore plus mal que si j'avais perdu. Parce que je savais que je le battrais jamais. Tu vois, ce jour-là, j'ai compris qu'il était intouchable pour moi.
J'arriverais pas à avoir ce petit pourcentage en plus.
Il était crochet décalé, il venait faire des petits crochets en pied, il avait toujours un temps d'avance. Et même dans une configuration où j'étais vraiment la meilleure version de moi-même, c'était mort.
Même en élevant ton niveau, quand ça compte vraiment, tu sais que t'es face à un plafond de verre. On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, être capable d'élever son niveau quand ça compte vraiment, alors qu'on est en plein, justement, dans ça, certainement dans la tête d'Alcaraz et Djokovic qui sont dans leur finale de l'Open d'Australie. Un set partout entre les deux, 2-1 pour Djokovic, service à suivre pour Alcaraz. Jérôme, toi, dans ta carrière, dans le vélo, c'est un sport individuel aussi, c'est un sport d'équipe, mais t'as été capable dans les objectifs que tu te fixais, par exemple, dans les saisons. On sait que toi, t'étais très bon sur les classiques ardennaises, ces classiques un peu montagneuses. T'arrivais à mettre le petit pourcentage en plus dans ces moments-là?
Nous, ça faisait partie de notre quotidien, parce que le coureur que j'étais avait très peu de fenêtres de tir pour profiter de sa forme à lui.
Donc en plus, t'as la pression de te dire, je peux pas me louper là.
C'est ça, j'ai trois courses en fait, oui. Et je l'ai préparé tout l'hiver. Moi, mon levier psycho, c'est moi qui étais un bon vivant et qui, quand il faisait les sacrifices, c'était vraiment très difficile de les faire. C'était pas naturel chez moi de faire attention à tout. Bah, j'allais chercher ça pour me dire, je sais pas passer 15h, 20h, 30h par semaine sur le vélo à 5 degrés sous la pluie. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est souvent le temps qu'il fait en Bretagne, pour aller chez Alerport le jour de l'objectif. C'est de ça dont je me servais tout le temps. À l'entraînement, je me servais de ça pour me dire, il y a ce jour-là, et le jour J, j'allais chercher des zones que je n'avais pas atteinte sur Liège, sur la Flèche Wallonne et surtout sur l'Amstel Gold
Race. Ah, mais tu le voyais sur tes données de performance,
bien sûr.
Tu voyais que t'arrivais à être plus fort
qu'à l'entraînement, par exemple. Sur un effort vraiment violent quand la course se faisait dans le dernier tour à Wackenburg, je pouvais monter avec 20 ou 30 watts de plus que ce que je faisais sur la Brabançonne 15 jours avant. Tu vas chercher des zones parce que c'est là, c'est pas demain, c'est trop tard. C'était pas la veille et ça c'est sur ce moment-là tu vas le chercher. Non mais il y a chercher là parce que
il y a quelque chose d'animal. C'est Julia Simon qui me disait ça il y a quelques jours quand elle a gagné à Nove Mesto en biathlon. Quand j'ai attaqué, j'étais animal.
Bien sûr. Mais je pense qu'un garçon comme Marc Madio, pareil, sur une course comme Paris-Roubaix, qui l'a remporté deux fois et qui lui filait des frissons rien qu'à l'idée de penser à la course le dimanche précédent,
tous ses sens s'activaient.
Je pense que il aurait fallu calculer ses watts pour savoir s'ils n'étaient pas deux fois supérieurs à celui-là.
Ah, je pense qu'ils pouvaient allumer toute une ville comme Roubaix. Rien qu'en pédalant.
Tu vois, pour revenir sur le côté animal, il y a une dimension qui est très importante aussi. Alors, c'est un peu provoque, mais heureux les simples d'esprit. Parce que le problème de la compétition, c'est que quand tu gamberges, comme moi, j'avais cette faculté à trop réfléchir. Alors, ça m'a servi à comprendre le tennis, à comprendre le vélo.
Les teubés ont plus de chances de performer.
C'est un raccourci.
J'ai dit trop réfléchir. Mais c'est pour ça, justement, je te fais cette petite truc provoque. C'est que de réfléchir intelligemment à bon escient, il y a aussi une écologie de la pensée. Je me suis perdu dans des représentations de s'il est gaucher, s'il est droitier, s'il fait froid, s'il fait chaud.
Ça, c'est
très difficile.
Beaucoup la tête, les athlètes.
Tu sais pas si bien dire, nous, on a un sport qui est lent. Ça va très vite sur le vélo, mais t'as le temps de réfléchir quand même.
Mais t'as le temps de réfléchir, mais tout se décide à un moment.
Et moi, j'ai un exemple parfait pour ça. J'ai fait le Tour de France en 2009. Et j'ai fait un très bon départ. Et le jour de la première arrivée dans les Pyrénées, en Andorre, où gagne Brice Feuillu, je suis échappé avec Brice Feuillu. Et si je suis le premier de l'échapper ce jour-là, hors Brice, qui avait pris un tir dans une étape précédente, j'étais maillot jaune pendant 8 jours. J'ai tellement pensé à ça que sur les 10 échappés, il y avait 6 grimpeurs dont je faisais partie, capable de briller là-haut, j'ai pété au bout de 2 km.
Un peu comme Gislain Lambert, quoi, qui part à bloc.
Mais tu vois, c'est
intéressant. Et du coup, t'as pas réussi à élever ton niveau parce que t'as trop d'emmerde.
C'est même pas ça, Georges. C'est qu'à l'analyse, avec, le soir même, avec l'entraîneur et le médecin, on a vu que, au moment où Nocentini, qui a pris le maillot jaune, rappelez, Nocentini a passé 10 jours.
J'ai 2 heures à un mondial.
J'ai besoin d'aller chercher une zone que je pratique, mais quasiment toutes les semaines à l'entraînement. J'en étais incapable. Blocage. Blocage psychologique.
C'est la représentation. Ce qui est super dur, toi, la question, c'est être capable d'élever son niveau quand ça compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment?
Ça comptait, hein, 10 jours en jaune. Non, mais c'est ça. 10 jours en jaune aujourd'hui.
C'est le sujet, c'est les objectifs. C'est comment tu prends du recul. Et en fait, ce qui est super compliqué, c'est, tu sais, Rocky Balboa, à un moment donné, il est dans le dernier round. Et son entraîneur lui dit, si tu perds maintenant, c'est le drame de ta vie. Parce que c'est ça, en fait, le haut niveau. C'est le drame si tu perds. Et en même temps, si tu y réfléchis, eh ben, tu deviens moins fort parce que tu gamberges et tu deviens moins important, moins intéressant, moins évident.
Élever son niveau de jeu quand ça compte vraiment, c'est peut-être le moment justement pour Carlos Alcaraz de breaker Novak Djokovic dans la troisième manche. Ils sont 1-7 partout, Eric Salio, et c'est un moment important peut-être là dans cette rencontre.
Il est dans le dur, Novak Djokovic, c'est incontestable, même s'il donne tout. Je vous l'avais dit en début de reportage, il est prêt à donner sa vie, mais là, il est en difficulté. 2-2 au troisième set, et il y a 0-30. Et surtout, il perd des points qui sont merveilleux, et ça, pour le moral, c'est pas bon du tout de perdre des points que tu avais presque l'impression d'avoir gagné, mais en face, il y avait un mutant, notamment dans le jeu précédent, 15-30. 15-30, là, une faute gratuite de Carlos Alcaraz, mais Novak Djokovic va devoir vraiment aller à la bagarre, parce qu'il faut absolument qu'il sauve sa mise en jeu dans ce cinquième jeu du deuxième set, mais ça joue merveilleusement bien, on se régale.
Ça joue merveilleusement bien. Non mais Sarah, pour revenir à notre vestiaire là, sur élever le niveau de jeu quand ça compte vraiment, toi quand tu te retrouvais face à des adversaires, on a parlé ensemble de Martina Hingis par exemple, que tu as pas mal affronté, tu l'as voyé réussir à devenir, je sais pas, stratosphérique sur une séquence, quand tu es en face c'est comment?
Oui, mais parce qu'elle faisait tout mieux. Donc elle faisait tout mieux et que j'ai pas de solution, parce que là on parle aussi du mental, mais il y a un moment il y a les qualités physiques et techniques, c'est-à-dire que quand je joue Serena Williams, si à un moment il va falloir quand même être un petit peu pragmatique, c'est-à-dire que quand je prends des services à 190 et que moi le mien il dépasse pas 130, je suis exposée à chaque coup.
S'il vous plaît, madame, arrêtez de frapper fort.
C'est ça. Et quand je joue Monica Seles, qui a les deux pieds sur la ligne et qui joue tellement plus vite que moi, j'ai à peine le temps d'armer que la balle revient, il y a des adaptations à faire. Alors j'aurais pu jouer plus vite, parce que c'est pas une question de puissance, c'est une question d'adaptation technique et ton œil. Mais quand il y a un contrepoids physique,
c'est le drame de ta discipline.
Exact. Et j'ai toujours admiré, mais j'ai une admiration incommensurable pour Justine Hénin, qui arrivait à neutraliser les sœurs Williams, alors que Justine fait 1m67, elle avait un remer à une main.
Balle de break pour Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic dans la troisième manche, Eric Salio.
Le break est fait parce qu'il a explosé sur sa frappe, Novak Djokovic. Les jambes ne le portent plus. Break, Alcaraz, 3-2 dans cette troisième manche. Il est en train de prendre vraiment l'ascendant, le numéro 1 mondial, face à un joueur qui est dans le doute, Novak Djokovic.
Il y a une petite baisse physique qui est vraiment visible du côté des Djokovic. Donc en fait, ses coups sortent, c'est-à-dire que le dernier petit ajustement qu'il doit faire pour continuer à soit être dans l'échange, soit à renverser l'échange, il ne peut plus le faire comme au premier set.
Il joue un tennis de très très haut niveau, Sarah. Est-ce que je me fais tomber dessus, mais tant pis, on peut dire que s'il avait joué 2 matchs avant contre Sinner, il serait peut-être pas en finale.
Oui, enfin, tu peux, ou 2 matchs
avant. Quand tu vois comment il plie physiquement au bout d'un 7 et demi.
Oui, mais t'as vu ce qu'il a été capable de faire contre Sinner, en fait, c'est toujours ça.
Il avait pas joué avant.
Il avait
une cartouche.
Faut enchaîner. Ce qui est beau dans un tournoi du Grand Chelem, c'est d'enchaîner les matchs qui durent à très haut niveau. Là,
il y a le premier set.
C'est le quatrième match.
Ouais, mais ça fait partie de l'histoire.
C'est les circonstances. Mais il est vrai qu'un joueur qui vise une finale doit faire attention dans les premiers tours de ne pas lâcher de pas lâcher d'énergie ou des sets inutiles.
Rémi sur WhatsApp au 06 24 24 24, envoyez-nous vos messages, hein, pour savoir comment vous vivez ce match. Me disait il y a quelques minutes, Djokovic en vieux roublard s'est reposé dans le deuxième set. Il va attaquer dans le troisième, débuté le match. Mais là c'est vrai que le troisième pour l'instant n'est pas en train de se confirmer.
Il a plus l'énergie. Parce que je pense que la stratégie elle est là. Il y avait aussi ce jeu un petit peu d'utilisation de la force de l'autre. Mais là tu vois que Djoko il revient pas du fond.
Moi les amis, il a plus d'énergie Djokovic. Ouais, on en parlera quand le match sera terminé.
Djokovic égale Phoenix. Il sait comment faire. Après, il a même tendance parfois à endormir l'adversaire.
Il a plus d'énergie pour l'instant.
Il faut changer les piles. Il peut passer à la borne.
Allez, le vestiaire, on va fermer la porte du vestiaire.
Juste pour conclure ce que disait Fred tout à l'heure, c'est j'ai un entraîneur quand j'étais jeune que je me faisais des objectifs très précis, championnat de France. Il me disait toujours réfléchis-y, mais n'y pense pas. C'est un peu la chose qu'il faut.
Ah oui, ça c'est pas facile ça.
Oui, mais c'est-à-dire que tu le prépares, tu dois l'avoir dans la tête, mais dès lors que tu te mets trop de choses souvent.
Il y a un autre truc aussi, c'est le truc que je supporte plus quand les champions on leur dit alors quel conseil vous pouvez donner aux jeunes, faites-vous plaisir. Non, arrêtez de dire faites-vous plaisir.
Arrêtez avec ça.
Dites juste que je m'entraîne pour un objectif et le plaisir, il est dans la réalisation de cet objectif.
Et juste pour y arriver, après tu te feras plaisir.
Juste pour fermer ce vestiaire sur comment réussir à élever son niveau de jeu quand ça compte vraiment. T'as pas fini de raconter tout à l'heure, Sarah, tu disais N1, elle arrivait à annuler les Williams. Comment elle faisait en fait?
Avec son petit gabarit, elle arrivait à annihiler la puissance adverse et à faire courir. Parce que moi, je savais comment jouer Serena Williams, sauf que je savais pas le faire.
T'as pas demandé à Justine Hénin d'ailleurs?
Je pouvais te l'expliquer sur le papier, mais j'arrivais pas à le produire.
La plus grande leçon que j'ai prise une fois, c'est j'arrive à l'INSEP et il y a un entraîneur qui est là. Il y a des gars qui font du saut en longueur. Et moi, j'étais à 145 kilos, tu vois, je faisais un peu le malin, judoka, et puis je lui dis. Je me demande quand même comment c'est possible que je sois jamais. Je me demande ce qui me manque pour être champion de saut en longueur. Et l'entraîneur, il me regarde, il me fait de talent.
En fait, à un moment donné, c'est
malheureusement, même, c'est ça le haut niveau.
C'est cruel, mais il y a un peu de ça quand même.
On avait du talent.
Ben bien sûr.
Mais pas dans tous les secteurs du jeu, malheureusement.
Exactement.
Quand elle n'a pas de talent, quand elle est en panne de talent, elle peut aussi se mettre à tricher. Ça, on l'a vu hier.